écoutez, là, je vais vous proposer une présentation très succincte d'un travail qui est distinct de ce que vous ont exposé Christine et Frédéric, mais qui a beaucoup de points communs, parce que en particulier, ça s'inspire du même cadre théorique hein, de la psychologie développementale et de l'approche ergonomique. Alors, vous verrez qu'en particulier, la question de la prescription sera centrale. Et puis, vous verrez également que c'est un travail donc qui résume une quinzaine d'années de recherche sur le même sujet, quoi. Hein. Et vous verrez qu'en particulier, on va passer de l'analyse de l'activité de l'élève à l'analyse de l'activité du professeur, donc selon ce cadre théorique. Et puis demain, conformément au programme que vous avez reçu, on abordera plus la question de l'analyse de l'interaction entre l'activité de l'enseignant débutant et du formateur. Voilà. Donc c'est un travail que je vous propose. Alors là, j'ai prévu à peu près 258 diapositives. Donc je pense que je vous en passerai à peu près un quart. Et donc je vais m'organiser de la façon suivante. Je vais vous essayer de rendre un petit peu la chronologie de cette recherche. Je vous ferai grâce de questions de méthode auxquelles on a été confronté. Oui, on verra, hein, on verra. Mais je vais essayer de tenir là. Il nous reste 35 minutes. Je vais essayer de tenir dans 35 minutes. D'autre part, je dirais que je vous laisserai ce diaporama. Hein, donc, je dis ça parce que vous allez peut-être être frustré du point de vue de la prise de notes. Voilà. Donc là, dans un premier temps, pour vous rendre la chronologie de cette recherche, je partirai sur les études ethnographiques que j'ai menées dans les années 80. Et puis à un moment donné, dans un deuxième temps, la réorientation de cette recherche par rapport au cadre théorique qu'on vous a présenté ce matin. Et puis bon, les principaux résultats que je vous livrerai au point 3 et 4. Voilà. Donc si vous voulez, ce travail, il a commencé donc à Aubervilliers. Hein, et il a commencé à Aubervilliers. Alors d'abord dans mes classes, puis dans les classes de collègues quoi, avec qui j'ai travaillé, et qui a consisté, si vous voulez, face à des problèmes d'action d'élèves qui étaient non souhaitables, hein, pour parler de façon euphémisée, c'est-à-dire d'élèves qui avaient des actions difficiles à supporter en tant qu'enseignant, j'ai fait le travail qui a consisté à noter tout ce que je percevais comme étant des transgressions par rapport à ce que j'avais prescrit, d'accord. Et donc je suis arrivé dans un premier temps à établir le système réglementaire de la classe, hein. Alors d'abord de ma classe, et puis pour arriver à une sorte de modèle. Et puis vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, cette façon de voir les choses m'a amené à me poser la question de comment était l'évolution de l'attribution de sens chez les élèves de ce système réglementaire. Et puis un certain nombre de conséquences que ça a eu du point de vue de ce que j'appelais la contamination d'attitude à cette époque-là, mais vous allez voir, les mots ont changé et c'est pas anodin. Voilà, donc si vous voulez, quand on prend en compte pendant des semaines et des mois et des années les actions d'élèves qui sont non conformes à ce qu'on attend, eh ben en éducation physique, on se rend compte que ces actions, elles peuvent être rapportées par rapport à un certain nombre de prescriptions qui passent tous dans la bouche du professeur. Et qui sont des prescriptions, alors soit par rapport à la sécurité, soit par rapport aux règles des jeux sportifs qui servent de support hein, à la classe EPS, mais aussi des règles institutionnelles là qui traversent toutes les disciplines et tous les niveaux d'âge. Hein. Il faut arriver à l'heure, il faut arriver avec sa tenue, il faut arriver avec son matériel, etc. Il faut être noté. Également des règles que j'appelle des règles de groupe ou des règles groupales. Et ces règles groupes, c'est plutôt des arrangements entre élèves, vous voyez, c'est plutôt c'est des choses qui sont très présentes dans les classes, y compris dans les classes d'espagnol ou d'anglais, hein, ou d'histoire géo, ou de lettres. Mais en EPS, ça a une importance particulière, c'est tous les moments où les élèves sont obligés de collaborer dans la même équipe, ou sur le même atelier, où ils se surveillent les uns les autres, où ils se parlent les uns les autres. Et puis enfin, et il m'a fallu, alors vous allez rigoler, il m'a fallu plusieurs années pour me rendre compte que finalement, tout ce qui concernait ce qu'on appelle les contenus didactiques, hein, les contenus disciplinaires de la discipline en question qui est l'EPS, eh bien c'est également des règles. Hein, donc si vous voulez, donc dans un premier temps, pendant un an ou deux, je me suis rendu compte que les actions que je percevais comme non souhaitables, non conformes d'élèves, c'était des actions qui se rapportaient à des règles plutôt à fonction sociale. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, en particulier chez les élèves difficiles, les prescriptions concernant les apprentissages moteurs, hein, puisque là il s'agit d'éducation physique, mais c'est pareil pour les apprentissages en maîtrise du langage ou en mathématiques ou dans n'importe quelle discipline, ça peut également être traduit en termes de règles, hein. Donc concrètement, si vous voulez, on peut mettre sur le même plan, et maintenant j'en suis absolument persuadé, hein, en particulier pour l'élève difficile, mettre sur le même plan, il faut se mettre en rempart 2, il faut collaborer avec ton copain, il faut pas faire de roulade au bord du parapet, il faut pas tricher, et puis il faut accorder le verbe avec le sujet, l'adjectif avec le nom, et puis vous prenez tous les exemples que vous voulez dans toutes les disciplines. Donc ça m'a amené à essayer de définir le système réglementaire de la classe, donc le système de réglementaire qui finalement définit ce que j'ai appelé plus tard, et c'est sujet à caution, hein, c'est sujet à discussion, je suppose, ce que j'ai appelé le métier d'élève, hein. Donc là, encore une fois, on est dans une approche ergonomique, et je me suis lancé dans ce mot-là, donc de métier d'élève qui consisterait donc finalement à intérioriser un système réglementaire, hein, où il n'est pas inintéressant de voir que ce sont des règles qui servent à résoudre des problèmes différents, hein, mais qui finalement, surtout pour l'élève en difficulté, finalement représente une sorte de chape en béton, hein, qu'il a sur la tête et qui donc son métier consiste à intérioriser. Donc vous voyez, en gros, on arrive à une sorte de modèle comme ça où finalement le métier d'élève, il consiste à intérioriser des règles qui sont plutôt à fonction sociale, c'est-à-dire finalement à définir des statuts, déterminer des rôles, hein, que ce soit dans les groupes de travail ou que ce soit entre le prof et l'élève ou que ce soit entre élèves à l'occasion de n'importe quoi. Là, ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, ça illustre bien ça. Ou plutôt des règles à fonction opératoire, donc pour résoudre des problèmes mathématiques ou pour résoudre des problèmes de production de langage ou résoudre des problèmes moteurs en éducation physique, hein, se démarquer du défenseur, tendre les bras, être tonique pour faire un appui tendu renversé, pour prendre les ou en technologie ou etc. Vous voyez, donc si vous voulez, le modèle de base c'est celui-là. Il m'a fallu pas mal de temps donc de prise de notes de type ethnographique, hein, comme Lévi-Strauss dans une tribu au fin fond de l'Amazonie, si vous voulez, ou dire vraiment que fait l'élève, hein, que fait l'élève qui transgresse. Et puis, il transgresse par rapport à quoi, d'accord? Et puis, progressivement, je vous la fais très rapidement, mais je vous renverrai à des éléments bibliographiques où vous pourrez creuser si ça vous intéresse. Je me suis rendu compte qu'évidemment, c'était pas en termes de tout ou rien. C'est-à-dire, il n'y avait pas l'élève qui faisait pas et qui se confrontait de façon conflictuelle avec l'enseignant, et puis l'élève qui faisait volontairement, qui prenait des initiatives, mais qui avait il y avait des sortes de des modes d'intériorisation de la règle qui étaient différents. Et ça, alors ça aussi, c'est des semaines, des mois, des années pour essayer de mesurer les différences finalement d'action d'élèves, hein, par rapport à ces règles-là. Et donc je suis arrivé à ce deuxième modèle, si vous voulez, qui distingue pour l'extrémité gauche des élèves qui sont vraiment, alors on va dire les plus difficiles, hein, c'est-à-dire ce que j'ai appelé l'autonomie négative, c'est-à-dire qui ont des actions autonomes négatives ou autonomes d'opposition, et c'est-à-dire des élèves qui finalement fonctionnent par rapport à un autre système de règles, hein. Je m'appuie là-dessus sur un travail que j'ai fait en Guyane, vous savez, où il y a des élèves de d'origine culturelle très très différente, hein. Donc il y a des métropolitains, il y a des noirs, il y a des noirs marrons, il y a des amérindiens, etc. Donc dans la même classe, et donc on se rend compte qu'il y a des élèves qui, ou alors par exemple un travail que j'ai fait dans la banlieue de Nice avec des élèves issus des gens du voyage. Hein, donc où on se rend compte que par exemple le fait de shipper un portable à son copain, bon, finalement c'est pas très important, ce copain-là il devait faire attention. En revanche, il faut surtout pas que quelqu'un me dénonce, parce que si quelqu'un me dénonce, là c'est une règle. Bon, donc vous voyez, c'est tout un tas d'actions d'élèves que j'appelle autonome négatif, autonome d'opposition pour être plus précis, qui consiste à fonctionner par rapport à un certain nombre de règles, mais des règles qui sont distinctes de l'école républicaine, hein. Et ça se voit, hein. Bon, donc les élèves anomiques, j'en trouve beaucoup en maternelle, hein. Donc on en voit très peu dans le second degré, sauf exception, hein. Donc c'est des élèves qui connaissent pas la règle, et donc en maternelle ça se voit souvent, hein. Là encore une fois, en ce moment je mène une recherche en maternelle. Bon, l'élève qui a été absent de 2 mois, là il a presque 3 ans, et puis donc ça l'intéresse plus, hop, il sort de la classe, il s'en va. Donc il connaît pas la règle institutionnelle qui consiste à dire il faut rester en classe avec le professeur de telle heure à telle heure. Bon. Alors, sinon, à l'autre extrémité, il y a les élèves qui ont des actions autonomes. Et donc, c'est-à-dire, c'est des actions d'élèves qui consistent à prendre des initiatives. Hein. C'est-à-dire, non seulement ils suivent volontairement les prescriptions de l'enseignant, hein, les prescriptions du métier d'élève, mais à un moment donné, quand ils pensent que ces prescriptions suffisent plus, hop, ils prennent l'initiative d'en prendre. Il y en a, hein. Il y a des actions autonomes d'élèves dans le premier degré, dans le second degré. C'est pas si rare que ça, concrètement à ce qu'on pense. Bon. Et puis, la plupart des actions d'élèves, en particulier dans le secondaire, elle se trouve dans les deux bulles du milieu, c'est-à-dire des actions que j'appelle hétéronomes, c'est-à-dire des actions qui consistent à faire ce qui est prescrit simplement quand on me contrôle, hein, c'est-à-dire quand le prof est là et qu'il me surveille, je fais ce qu'il y a à faire, hein, c'est-à-dire je fais mon métier d'élève, donc par rapport à ce système réglementaire que je vous ai présenté tout à l'heure. En revanche, quand il a le dos tourné, bah, je fais autre chose. Hein. Donc en EPS, ça se traduit par exemple par le fait que quand le prof a le dos tourné, je fais un match. Quand il revient, hop, je fais la situation d'apprentissage qu'il m'a proposée. Hein, ça, vous avez dû en voir quelques-uns comme ça. Alors là, on en voit beaucoup. Hein. Dans le secondaire, on en voit énormément des actions hétéronomes d'élèves. Bon là, je prends des exemples en EPS, hein, mais il y en a dans toutes les disciplines. Encore une fois, l'extrait qu'on a vu auparavant avec Christine illustre pas mal ce type d'action. Et puis, ce qu'on trouve aussi en grande proportion, c'est des actions autorégulées. C'est-à-dire, là, l'action autorégulée pour le chercheur d'élève, c'est quand l'élève il fait le travail prescrit, même quand le prof le contrôle pas. D'accord. Bon. Alors, vous voyez cette espèce de travail fin, hein, de si vous voulez, de catégorisation d'action d'élèves, si vous voulez, il renvoie à donc des hypothèses théoriques qui consisteraient à dire bon ben finalement il y a divers degrés d'intériorisation de la règle chez l'élève. Hein. Depuis l'élève qui fonctionne par rapport à une autre règle ou qui connaît pas la règle, jusqu'à l'élève qui la comprend mais il comprend pas le pourquoi. Hein, donc c'est ce que je mets sous le terme d'action hétéronome. Jusqu'à des élèves qui intériorisent la règle à proprement parler, c'est-à-dire ils accèdent à la fonction de cette règle, et puis des élèves qui finalement l'ont tellement intériorisé qu'ils sont capables de participer à sa co-construction. Alors ça peut vous paraître un peu théorique, mais tout ça, dessous tout ça, il y a des centaines et des milliers d'observations d'actions d'élèves, voyez. Donc pendant tout ce temps-là, je me suis intéressé à l'analyse de l'activité de l'élève. Et puis cette analyse de l'activité de l'élève, je pense que non, je vais pas aller là-dessus parce que là c'est je vais passer cette diapositive. Bon, bien qu'elle soit très très intéressante, mais voilà, lance ça aussi, je vais la passer parce que je pense que on n'aura pas le temps, hein. Et donc en particulier, c'était les conséquences pédagogiques, hein. Quand on fonctionne comme ça, ben on se rend compte que finalement il y a beaucoup d'entrées dans le métier, hein, pour modifier les actions d'élèves, et en particulier, il n'y a pas que l'action didactique, hein, il n'y a pas un travail d'intériorisation à propos des règles d'apprentissage, hein. C'est un peu le postulat didactique. Bon, moi je l'intègre je le mets à ma main, ce postulat didactique. Je pense qu'il est tout à fait pertinent. Le fait de voir les choses comme je vous l'ai présenté, ça aurait plutôt tendance à penser que c'est une entrée parmi d'autres, hein. Et donc en particulier qu'en éducation physique, quand on veut donner un sens global au métier d'élève, eh ben on peut par exemple partir des règles de sécurité, hein, donc à propos d'activités de pleine nature par exemple, hein, on fait escalade, on fait voile, etc. Vous voyez ce qu'on fait souvent avec des élèves, avec des adolescents pré-délinquants, vous voyez, ou délinquants, on les emmène faire de la voile, tu vois, pour de l'escalade. Pourquoi on fait ça, tu vois? Bon, ben finalement, moi je fais l'hypothèse grâce à ce travail là que finalement c'est un moyen de faire accéder au sens d'une catégorie de règles qui participent du métier d'élève, hein. Et que si on rentre comme ça, ben on se rend compte que ben tiens, les élèves ils se mettent à apprendre, tu vois. Donc finalement, que les élèves ils se mettent à collaborer alors qu'ils pouvaient pas se voir entre eux, ou que les élèves ils ne trichent plus, ou que les élèves ils n'ont plus de comportement à risque, vous voyez. Alors voilà, c'était ça qu'il y avait dans les deux ou trois diapositives. Et puis au bout d'un certain nombre d'années, je suis rentré dans le cadre théorique qui vous a été présenté ce matin, et en particulier, alors ça a été annoncé par tout un tas de rencontres, puisque je me suis mis à travailler avec Marc Durand, j'ai découvert un certain nombre de lectures à propos de la psychologie développementale, hein, de Vygotsky, etc. Et puis il y avait aussi des observations de terrain, si vous voulez, qui m'embêtaient, hein. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que par exemple la règle, même si et donc c'est le premier point que j'évoque ici, que même si elle était affichée, vous voyez, par exemple, dans le primaire, souvent, les professeurs, ils mettent les règles de vie de la classe affichées hein, sur la porte de l'école. Et donc, elles sont très officiellement dites. Souvent, elles font l'objet de négociations, des fois de fausses négociations. Et bien, on se rend compte que finalement, quand on suit une leçon, on se rend compte que cette règle, elle est détournée à longueur de temps. Hein, c'est-à-dire que finalement, elle fait toujours l'objet d'amendements. Hein, donc, je vous donne juste un exemple pour illustrer ça. Vous voyez, c'est la règle qui consiste, par exemple, j'ai fait une étude assez longue d'une année avec avec deux classes de CE1. La règle qui consiste à lever la main avant de parler. Hein, donc, on comprend bien, c'est une règle sociale, c'est une règle groupale, hein, bon, qui consiste à, bon, finalement, pour qu'on puisse s'entendre, il faut faire ça. Et on se rend compte que la mise en œuvre de cette règle-là, elle aboutit à des cas de figure très très différents. Et en particulier, je me suis rendu compte qu'il y avait deux élèves qui, eux, étaient les seuls de la classe à pouvoir parler sans lever le doigt. Hein. Ou que dans certaines circonstances, quand par exemple la prof interrogeait la classe une fois, deux fois, trois fois, etc., et que personne répondait à ses attentes, et bien finalement, le premier qui avait la solution, même s'il ne levait pas le doigt, oh bon. Donc vous voyez, c'est juste un exemple pour vous dire que finalement, toutes les règles, y compris les plus officielles, etc., elles ont donné lieu dans la dynamique de la leçon à des amendements et à des modifications, hein, et des fois des modifications à long terme. Deuxièmement, je me suis rendu compte aussi, et c'est le deuxième point là, donc il n'y a pas une règle en soi, hein, donc il n'y a pas une règle en soi, il y a une règle qui est toujours en train de bouger. D'accord. Deuxième point, je me suis rendu compte que finalement il n'y avait pas d'attitude d'élève. C'est le mot que j'avais utilisé au début, c'est un terme que j'avais emprunté à la psychologie sociale. Donc il n'y a pas d'attitude d'élève. Hein, donc on dit les élèves difficiles, mais en particulier cette recherche que j'ai faite en CE1, là pendant une année, je suis allé 70 demi-journées avec deux professeurs différents, deux professeurs chevronnés. Eh bien, je me suis rendu compte que les élèves, ils étaient anomiques. Le plus souvent avec Monsieur Machin et jamais avec Madame Truc. Qu'avec Monsieur Machin, ils étaient anomiques par certains moments, puis parfois ils étaient autorégulés. D'accord? Le même élève. D'accord? Donc ça veut dire que cette idée très forte qui est contenue à l'intérieur du concept de psychologie sociale d'attitude, hein, c'est une orientation stable, ça correspond pas à la réalité. Le même élève, il est capable d'avoir des actions autorégulées, autonomes, anomiques, etc., avec un espace de temps très très court, d'accord. Et donc ça m'a remis en question. Et donc à partir de là, j'ai davantage parlé d'action. Hein, donc depuis le début de mon exposé là, depuis 10 minutes, un quart d'heure, je parle d'action d'élève. Ce qui rend compte un peu de l'instabilité aussi de ce non des apprentissages. J'essaie de rompre avec la conception causaliste, c'est-à-dire finalement, quand il se passe ça, l'élève fait ça, tu vois, ou quand l'élève fait ça, le prof fait ça. Donc, j'essaie de rendre compte de ces différentes ruptures là par ce schéma. Hein, donc, si vous voulez, qui est un schéma qui consiste à dire bon, finalement, dans la classe. Il y a un certain nombre de règles qui sont véhiculées, hein, donc règles qui définissent le métier d'élève. Ces règles, bon, elles sont la plupart du temps, elles passent par la bouche de l'enseignant, des fois par des actions hein, non verbales d'enseignant. Et finalement, elles sont toujours négociées. Hein, elles sont toujours négociées. Et donc, ça sous-entend qu'elles sont revisitées en permanence. D'accord. Donc vous comprenez bien que cette façon de voir les choses, ça pose la question de l'apprentissage et ça pose la question du développement. Alors, j'en suis arrivé un peu à partir de là à me poser la question, et donc j'en arrive à la deuxième partie de du travail que je veux vous présenter là très succinctement ce matin, c'est de dire bon voilà, OK, je suis allé assez loin dans l'analyse de l'activité du métier d'élève. Bon, finalement, il y a deux métiers qui se jouent en même temps. Hein. Il y a le métier d'élève, il y a le métier d'enseignant. Que fait l'enseignant quand un élève a une action autorégulée? Tu vois, c'est-à-dire, à propos de cette règle, dans la transaction, que fait l'enseignant? Qu'a fait l'enseignant? D'accord? Et donc là, encore une fois, au bout d'un certain nombre d'années, si vous voulez, j'essayais de mettre en rapport de façon assez systématique des actions d'élèves et des actions de professeurs à propos des règles. Donc, hein. Et donc, si vous voulez, le schéma auquel j'aboutis, c'est ça. C'est-à-dire où finalement, je m'aperçois qu'il y a quand même un certain nombre de corrélations fortes. Alors ça rend compte de recherches que j'ai faites en collège en éducation physique en particulier, hein, donc où je me suis rendu compte que si je regarde les transactions stables dans un cours d'éducation physique en France dans les années 90, hein, puisque là c'était dans les années 90, ben je me rends compte qu'on trouve beaucoup des actions hétéronomes d'élèves, c'est-à-dire des élèves qui font ce qu'on leur demande si on les surveille et si on les contrôle. Et puis des actions que j'appelle d'imposition du prof. Alors je vais venir hein, sur les diapositives qui vous définissent l'imposition. Donc qui consiste à donner la règle sans donner le motif. C'est ça que je décris comme les actions d'imposition du prof. Donc, on fait tout ça d'ailleurs, hein, je vous l'annonce tout de suite. Tous les enseignants, de façon majoritaire, présentent la règle sans donner le motif. Donc il faut faire ceci, hein, ou fait ceci, ou des fois simplement on donne le prénom de l'élève, et bon, c'est une sorte d'ordre. Alors on n'a pas le temps, on a de faire plus, etc. Et puis il y a une corrélation quand même assez forte entre des actions autorégulées d'élèves, hein, donc je vous rappelle, c'est des élèves qui font le travail scolaire prescrit sans contrôle, hein, et encore une fois, il y en a beaucoup, mais vous avez vu que sur mon schéma, j'essaie de le rendre de façon schématique, il y en a quand même, j'aurais envie de dire, assez nettement moins, avec des actions d'argumentation de la part du prof, c'est-à-dire que c'est des actions qui consistent à donner le motif, à expliquer le pourquoi. Je vais vous donner des exemples hein, tout à l'heure. Donc ça, il y a une corrélation assez forte, vous voyez, dans le second degré, entre ça. Et puis, pour continuer, il y a une corrélation entre des actions autonomes d'élèves et des actions que j'appelle de négociation du prof. Bon, négociation, vous allez voir, je suis pas très satisfait de ce terme parce qu'il regroupe beaucoup de choses. Bon, c'est une présentation schématisée, hein, vous avez compris que là, la réalité sociale, elle est beaucoup plus complexe que ça. Mais si vous voulez, le but aussi pour moi, c'était d'aboutir à des outils de formation en rapport avec ces recherches et ce cadre théorique. Donc, les actions de négociation du prof, si vous voulez, c'est quand le prof pose des questions à l'élève. Hein, donc, ça, on le voit souvent, il masque la règle. D'accord, hein, non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour etc. Bon, ou des questions fermées, des questions ouvertes, hein, donc ou simplement il s'éloigne. Vous verrez tout à l'heure, je vous donnerai un exemple où le prof il est appelé par ailleurs 2 minutes, donc il surveille ses élèves de loin et hop, comme par hasard quand il revient, ses élèves ont pris des initiatives. Voilà, donc action de négociation du prof, négociation qu'on trouve par exemple dans les situations de résolution de problèmes, hein, quand il s'agit des règles d'apprentissage, hein, donc où le prof il masque la règle, il essaye de la faire découvrir à l'élève. Et puis enfin, mais ça c'est tout à fait périphérique, si vous voulez, quand il y a des actions d'autonomie négative ou d'anomie des élèves, prolongées, des chahuts, c'est en rapport avec des actions de prof, mais je l'ai vu que chez des professeurs novices. Hein, bon, qui consiste, bon, je vous le dis très rapidement, ces actions non contrôle du professeur consistent à enchaîner de façon assez peu cohérente les différentes bulles que je vous ai dites là, hein, c'est-à-dire il impose, il argumente, il négocie, de nouveau il impose, et puis il négocie, et puis il argumente, etc. Et donc, si vous voulez, quand on s'y prend comme ça, ça fait un chahut dans la classe, donc ça on le voit, je l'ai vu chez certains professeurs débutants, mais c'est vraiment très... très rare, enfin en tout cas dans les recherches que j'ai faites. Pour finir, je vous dirais que j'ai, et là aussi c'est assez récent, je me suis rendu compte qu'il y a tout un tas d'actions du professeur qui sont pas des actions verbales, que j'ai appelées persuasion. Hein, donc là, c'est les termes d'argumentation, de persuasion, je les emprunte aux théories du langage, hein, aux théories du langage. Donc la persuasion, si vous voulez, c'est, vous voyez, par exemple, c'est un professeur de un PLP là, qui me très expérimenté, qui me dit, vous voyez, tu vois, avec cet élève là, il faut pas, quand il fait pas ce que tu demandes, il faut pas lui répéter, tu vois, il faut aller au-dessus de lui, faut lui mettre la main sur l'épaule. Comme ça, faut lui mettre la main sur l'épaule et puis regarder. Et si tu fais ça pendant 10 secondes, il se met au travail. Donc, vous voyez, ça, c'est des actions que je pouvais pas ranger dans les bulles précédentes, hein, c'est-à-dire où il s'agissait pas de l'énonciation verbale de la règle, hein, qui était dans la transaction, mais plutôt d'action non verbale, quoi, hein, d'action non verbale. Alors, des fois, c'est des. Alors, vous voyez, dans cette bulle de persuasion, je mets aussi tout ce qui concerne l'intonation, la circulation du prof dans la classe. Hein, vous savez, rien que le fait de circuler, c'est un moyen de contrôler. Vous voyez, donc, il y a des profs qui sont experts en ça, hein, qui le font consciemment. Hein, beaucoup de profs le font de façon inconsciente. Certains le font de façon très consciente. Et en particulier, les profs d'AIS, vous voyez, profs d'AIS de dans l'intégration, ou des profs avec des élèves très très difficiles. Hein? Voilà, donc je voudrais simplement revenir peut-être, parce que sinon, oui, donc vous voyez, je voudrais vous montrer le bas de la diapositive ici. Hein. Donc si vous voulez, j'ai essayé de structurer la règle et j'ai fait ces différentes catégories d'actions de prof et d'élèves pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, ces transactions prof-élève, par rapport donc à un codage. Hein, donc, qui cherche à structurer les règles par rapport à une formulation donc standard. Hein. Donc, il faut ou il ne faut pas faire ceci parce que ou rien ou sinon, vous voyez. Donc, si vous voulez, grâce à ça, j'arrive à dire bon, là, il s'agit d'une imposition. Hein, c'est-à-dire quand il n'y a rien comme motif, c'est une imposition. Encore une fois, c'est les actions de prof qu'on voit le plus souvent. Quand il y a le motif, j'appelle ça une argumentation. Hein. Quand la règle est masquée, c'est-à-dire quand par exemple le prof il dit qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ceci, tu vois, donc quand il part du motif et qu'il ne donne pas l'opération, là je dis c'est de la négociation. Donc ouais, c'est cette structure de règles, donc ce codage standard qui me permet d'arriver à ce travail que je vous ai présenté là. Bon, là je l'emprunte à un psychologue, c'est un travail que j'ai fait ça avec Stéphane Auberton. On l'a emprunté à la notion de raisonnement pratique qu'on trouve chez Ricoeur. Hein, donc qui bon je vais pas plus loin, c'est très intéressant, mais je vous le dirai une autre fois. Voilà, pour finir hein, et après je vous donnerai 2-3 exemples, il est moins 10, je voudrais pas déborder. Vous apercevrez que finalement, et alors c'est vrai hein, je m'en suis rendu compte qu'après coup, que finalement les actions d'élèves que j'avais déterminées, hein, que j'avais, sur lesquels j'avais essayé de mettre des mots, ça correspond finalement à un processus qui est décrit par Vygotsky hein, dans un livre qui s'appelle enfin en tout cas ça correspondait aux 4 étapes que définit Vygotsky pour ce qui concerne l'intériorisation des signes culturels hein. Donc Vygotsky, je vous le dis très rapidement et je vous le rappelle, si vous voulez, il décrit un processus d'apprentissage et de développement selon 4 étapes hein, donc une intériorisation de signes culturels, là des règles. Moi, je traduis en règles, selon 4 étapes. Hein. Et donc, lui, il parle d'actions spontanées, hein, donc qui tiennent pas compte de ces signes culturels. Hein. Et donc, évidemment, vous avez compris que ça correspond à ce que moi, je décris comme anomique. Hein. Des actions qui correspondent à ces signes externes, donc qui tiennent compte de ces signes culturels, de ces règles, mais sans les comprendre. Et puis, alors donc ça, vous comprenez que ça correspond à ce que je décrivais comme des actions hétéronomes d'élèves. Et puis des actions par rapport à ces signes externes pour créer des liens. Donc Vygotsky parle de liens stimulus-réponse. Hein. Et puis l'intériorisation chez Vygotsky, elle aboutit à ce qu'il appelle une greffe. Hein, c'est-à-dire que finalement, ce signe culturel, je suis tellement capable de faire des liens que je le fais mien. C'est mon signe, ça devient mon signe. Hein, donc cette intériorisation, je vous la fais très bref, mais en gros c'est ça. Évidemment, on retrouve ce petit travail ethnographique que je vous ai rendu compte. Donc si vous voulez, j'ai trouvé une sorte de justification théorique a posteriori de ce travail. Bon, là, encore une fois, je vais pas avoir le temps. Contrairement à mes collègues, je vais essayer de me tenir à ce que j'ai dit. Hein. J'ai d'ailleurs, au passage, je me tiens à les remercier. D'ailleurs, c'est sympa. Ah, je taquine. Donc là, je voudrais simplement vous donner un exemple. Hein. Vous voyez, c'est un exemple c'est un collègue qui commence une leçon dans un collège très difficile de Nice, qui s'appelle Collège Maurice Jobert. Il a une classe de 4e. Et puis c'est la première séance d'un cycle de handball, c'est le début de l'année. Hein, il fait face à tout un tas de soucis. Il y a une élève qui veut retourner au vestiaire parce qu'elle a oublié quelque chose. Il y a des élèves qui se sont disputés. En particulier, il y en a un qui s'est fait éclabousser. Et puis qui s'est fait un peu égratigner le dos par un copain, et éclaboussé à Nice au mois de septembre, c'est pas si grave. Hein. Mais donc il a enlevé son t-shirt. Et donc, lui, évidemment, comme les professeurs chevronnés dans ce cas-là, il fait démarrer la leçon très vite, hein, pas de temps de latence, on le verra tout à l'heure à propos des conflits prof-élèves. Les conflits, ça arrive souvent quand il y a des temps de latence. Et donc, il fait partir sa classe, mais il y a cet élève qui est sur le côté et qui met pas son t-shirt. Et il lui dit, allez Houssen, mets ton t-shirt et roule. Et l'élève, il bouge pas. Allez Houssen, c'est pas grave, t'as pas le dos cassé là, c'est une entaille, c'est tout. et l'élève il bouge pas. Alors donc les élèves ça y est, commencent à s'échauffer, tu vois, etc. Bon. Et le prof, alors c'est très intéressant de voir comment il se circule aussi, hein. Donc, il prend toute la classe sous son regard et puis il continue à résoudre, il essaye de résoudre ce problème. Ça m'embête vis-à-vis des autres. La consigne c'est que tout le monde met son t-shirt, on comprendra pas pourquoi. Et l'élève il bouge toujours pas, d'accord? De toute façon, il va sécher sur toi, ça changera rien, Houssen. Bon. Et là, Houssen, il met son t-shirt et il vient là-bas. Alors, vous voyez, ça, c'est un geste professionnel minuscule, vous voyez. Donc, mon travail, là, le travail que je vous présente, que j'ai fait en grande partie avec Stefano à partir d'un certain moment, c'est pour vous montrer, où est-ce qu'on repère la, si vous voulez, le métier, là, vous voyez. C'est que le gars, il dit, bon, finalement, allez, Houssen, mets ton t-shirt et roule. C'est-à-dire, il fait une action d'imposition, hein. C'est-à-dire, il faut mettre son t-shirt, motif. Zéro, d'accord. Et encore une fois, tous les profs font ça. Hein. On fait tous ça, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est pas une règle importante. Et puis, ça marche pas, d'accord. Et là, il va rentrer dans une argumentation en trois phases, si vous voulez, qui aboutit finalement au suivi de la règle prescrite par l'élève, d'accord. Et donc, vous voyez, c'est ce genre de travail qu'on fait. Bon, là, je vous ai donné un tout petit extrait, hein, mais qui rend compte. Finalement, des transactions entre prof et élève. C'est un prof très chevronné, et moi j'aurais envie de dire c'est un prof expert lui, hein. Autant de soit peu. Enfin, si tant est que je peux donner un avis de cet ordre-là, mais donc vous voyez, il est passé de l'imposition à l'argumentation, comme très souvent les professeurs chevronnés, pour les points importants, les trucs qui les préoccupent, ils sont amenés à argumenter en plusieurs phases. Hein. L'exemple suivant va vous donner un autre exemple à propos d'une règle d'apprentissage. Et donc, il aboutit. Alors, vous imaginez un professeur novice dans ce cas-là, d'accord? La transaction avec Houssen, là, ça lui bouffe son début de séance. Hein, c'est-à-dire, et là, on peut penser que, enfin, bon, pour avoir des tas d'exemples, de contre-exemples de ce type-là, on se rend compte que le métier, le métier d'enseignant, il se situe sans doute à ce. Un autre exemple d'argumentation qu'on voit très souvent, et c'est encore en éducation physique, hein, excusez-moi. Donc c'est une action d'argumentation, mais vous allez voir, c'est une action banale. Hein, mais en même temps, qui rend compte du métier là. Voyez, c'est un professeur donc qu'on appelle T, qui fait une leçon de badminton. Hein, et donc il veut faire travailler à ses élèves, si vous voulez, les différents placements de volant sur le terrain adverse pour déplacer l'adversaire et le faire gagner. Donc, il leur propose une situation où il faut faire un service court, puis ensuite un service long, et puis ensuite il les fera travailler sur des couloirs latéraux. Quel avantage de faire un service court? Quelle est la réponse de l'adversaire? Il va renvoyer un élève long. Long peut-être, mais surtout, oh oui, il va monter, Johan, donc vous servez, votre adversaire vous envoie un volant. En haut, quelle est votre réponse? Un élève, smash, smash, ça veut dire une touche de volant, deux touches de volant, troisième touche de volant, et j'ai marqué mon point, donc je ne suis pas fatigué, mon adversaire est fatigué. Donc vous voyez, minuscule geste professionnel. Et encore une fois, quelqu'un qui est sur le bord du terrain, derrière le grillage, il se dit, c'est un prof, ouais, c'est bon. Tout le monde est capable de faire ça, hein. Je dis ça parce que c'est un problème de nos métiers, c'est que c'est des métiers invisibles, vous voyez. Et or là, si vous voulez, c'est cette action banale, hein, donc dans laquelle on se retrouve tous dans nos disciplines respectives, si vous voulez, qui consiste à poser des questions, mais là vous avez remarqué que c'est des questions fermées. Donc là, moi, je code pas négociation, là, hein. Je code évidemment argumentation, c'est-à-dire que là, le collègue, finalement, il est en train de justifier la situation qui va consister pour les élèves à faire des services courts, hein, là, on est vraiment dans le travail didactique, là, vous voyez. On est dans le travail d'argumentation d'une des catégories de règles du métier d'élève, qui est la règle d'apprentissage, là, en l'occurrence, en EPS. Et encore plus en l'occurrence en badminton, d'accord. Donc on attend ça du prof d'histoire-géo, on attend ça du prof de mathématiques, on attend ça du professeur d'école, hein, qui fait la maîtrise du langage avec ses élèves, d'accord. Et donc là c'est à mettre en rapport. Il est midi moins une, c'est bon. Vous craquez pas? Non, bon, d'accord. Alors, je mets ça en rapport, encore 2 minutes, hein, encore 2 minutes, je vous donne un autre exemple pour vous montrer à quoi ça aboutit concrètement, vous voyez, ce type d'approche avec ce modèle là où on essaye de comprendre la prescription et où on met en rapport l'activité de l'élève et l'activité du prof. C'est la même classe avec un autre enseignant qui est un enseignant débutant, qu'on va appeler Karine, hein, et qui à un moment donné, dans le prolongement de la leçon d'avant que vous avez vue, hein, où le professeur chevronné justifiait son travail de service court, de service long, et puis ensuite de placement de volant à droite et à gauche sur le terrain adverse, reprend la classe et il va leur proposer un travail dans le prolongement de celui-là, mais c'est un travail où ce qu'elle veut leur faire apprendre, si vous voulez. Donc la règle d'apprentissage, c'est qu'ils jouent, ils placent les volants en diagonale. Pourquoi ? Parce que quand on place les volants en diagonale en badminton, si vous voulez, c'est la plus longue distance. L'adversaire, c'est la situation où l'adversaire se déplace le plus, et donc c'est la situation la plus efficace, d'accord ? Sauf qu'elle s'y prend complètement autrement, et vous allez voir comment elle va se planter, hein, d'accord ? Donc, elle dit, et au départ, dans cette situation, j'avais prévu de les faire partir directement sur les quatre coins, matérialiser, donc là c'est une autoconfrontation qu'il y a après la leçon, hein, elle parle avec le chercheur. Matérialiser des zones, et en fait je me suis dit, pour qu'ils cherchent eux-mêmes les solutions, je ferai deux couloirs, et puis après eux ils verraient ce qui est le plus pertinent, hein. Donc si vous voulez, elle a fait une sorte de situation de résolution de problème, hein. Elle leur a dit, voilà, au début vous jouez dans les couloirs à gauche et à droite, mais après il faut que vous trouviez votre solution, d'accord. Et puis au cours de la leçon, elle dit par exemple les choses suivantes. Elle dit à un élève, toi tu mets le volant où tu veux, le but du jeu c'est de le déplacer, donc tu trouves tes solutions. Une minute plus tard, avec un autre élève. C'est bien joué ça, mais tu dois trouver des solutions encore meilleures. D'accord ? Et puis enfin, 15 secondes plus tard, un autre élève, alterner droite-gauche, ok, ça tu le fais, mais il faut que tu essayes de le déplacer encore plus. D'accord ? Donc là, c'est, si vous voulez, c'est un type même de ce que moi j'appelle une fausse négociation. Bon, la leçon s'est très mal passée là, avec cette collègue, donc avec cette classe-là. Pourquoi ? Bah parce que les élèves, si vous voulez, au bout d'un moment, ils ont compris que l'injonction répétée de la professeure à trouver une solution qu'elle avait dans la tête, hein, qui consistait donc à placer les volants en diagonale, si vous voulez, ça c'était finalement une imposition, hein. Donc si vous voulez, il y avait une sorte de négociation, mais c'était une fausse négociation, quoi. Et donc elle a remis en question toutes les solutions d'élèves, hein. Je vous fais grâce d'autres extraits, mais il y a plusieurs extraits d'élèves par exemple qui disent, oui ben là on fait droite gauche gauche, c'est-à-dire on fait des contre-pieds, ce qui est une réponse tout à fait pertinente, hein, pour ce qui concerne l'objectif qui était visé. Donc la règle d'apprentissage que là les élèves avaient inventée, non, et qui là on va dire c'était une action autonome d'élèves, elle a été réfutée par le prof, vous voyez. Donc ça on le voit très souvent. Bon, évidemment, cette collègue, Karine, celle qu'on appelle Karine, elle sortait de l'IUFM, donc, bon, non, mais je veux dire, elle sortait du CAPES, et en particulier, si vous voulez, elle était obnubilée par l'idée qu'il fallait faire découvrir la solution aux élèves. D'accord ? C'était un truc très très fort pour elle, hein. Donc, il faut mettre les élèves en situation de résolution de problème, d'accord ? Mais simplement, c'est une sorte de simulacre de négociation, vous voyez, auquel les élèves qui sont, c'est des élèves chevronnés, là, qu'il y avait, hein. Parce que c'est des élèves de collège, de quatrième, d'accord ? Donc là, élèves chevronnés, professeurs débutants. Élèves chevronnés, si vous voulez, ils l'ont vu arriver de loin, vous voyez, son truc, d'accord ? Et puis, bon, au bout d'un moment, ça va. Alors, et je finis avec ça. Ce qui est intéressant, c'est que là, souvent, dans les transactions, il y a des vraies négociations qui sont sous forme de marchandage, hein, parce que dans transaction, c'est un terme économique aussi, hein. Il y a beaucoup de chercheurs en enseignement qui abordent ça, hein. Donc, je te donne des comportements satisfaisants, tu me donnes des notes satisfaisantes, ou ça va mal se passer. Et là, on se rend compte qu'il y a une vraie négociation au cours de la leçon. Et donc, je prends pour finir ce petit extrait-là, de dire, bon, c'est un élève qui lui dit, bon, alors c'est au début, hein. Une fois qu'elle a présenté son travail, elle dit, et après on joue, bon, sous-entend on fait un match après, donc à la fin de la leçon on fait un match, et la professeure dit, oui bien après on fera un match. Alors l'élève, ouais bien sûr, si on a 5 minutes après on fera un match, tu vois. Bon, lui il a bien compris, et Karine qui répète bien, donc le terme du vrai marchandage, donc de la vraie négociation qui est implicite, hein, mais qui finalement va fonctionner, c'est de dire, si la situation d'apprentissage marche bien, ensuite, on fera une situation de match, hein. Donc, t'as qu'à te tenir à carreau, tu vois. Sinon, tu vas pas avoir ton sucre à la fin du cours. Bon, très, très fréquent, hein. Encore une fois, Marc Durand, il a très bien repéré aussi ça dans les leçons d'éducation physique, cette espèce de marchandage. Il y en a d'autres, hein, des marchandages, hein. Encore une fois, c'est là, on a vu par exemple un exemple de marchandage à la note, qui est un marchandage très, très fréquent dans une sorte de transaction où il y a une négociation implicite, hein, à propos d'une règle institutionnelle qui est la règle de la notation. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Hein, je vais m'arrêter là. Bon, en vous disant que voilà, c'est un exemple. Hein, bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à discuter, sans doute. Hein, je suis pas sûr de tout. C'est un exemple donc où l'analyse de l'activité d'élève est mise en rapport avec l'analyse de l'activité du professeur, selon un cadre théorique de la psychologie du développement et donc de l'ergonomie, puisque là, je parle de métier. Hein, ça vous permet de. C'était juste pour illustrer et venir un peu en contrepoint des exposés de Christine et Fred.